À table.
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
Un mardi sur deux à 11h,
un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Bartas,
107 FM. À table.
Bonjour à toutes et tous, mangeuses et mangeurs du Sud-Lozère et d'ailleurs. Bienvenue dans le deuxième épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT, le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère. L'objectif du PAT, relocaliser l'agriculture et l'alimentation. Comment ? En mettant autour de la table toutes les personnes qui s'intéressent à ces thématiques et qui souhaitent s'impliquer pour installer des agriculteurs et agricultrices, développer les circuits courts et de proximité, mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation et instaurer l'éducation au goût à l'école, ou encore favoriser l'autoproduction. Lors de l'émission précédente, on avait parlé activité physique et alimentation lors d'un échange avec les encadrants du stage organisé par le Football Sud-Lozère, durant lequel un atelier de sensibilisation à une alimentation saine, équilibrée et locale avait été proposé. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, on reste bien évidemment sur la thématique alimentation et le lien avec la santé, en s'intéressant à notre microbiote. Je me suis rendue à l'atelier lactofermentation organisé au foyer rural de Quézac-Ispagnac Les Petits Cailloux par l'association Une Simple Fenêtre. On accueille en studio Aurélie qui a animé cet atelier. Bonjour Aurélie.
Bonjour Juliette.
En fin d'émission, on écoutera la chronique Jardin de Jean-Jacques, jardinier amateur membre de l'association Jardin Nature 48, qui nous présente chaque mois comment obtenir des beaux et bons légumes tout au long de l'année. Aujourd'hui, on parlera compost. Et on salue aussi Léo à la technique.
Et salut, salut.
Depuis un demi-siècle, on constate une augmentation des maladies dites de civilisation, diabète, cholestérol, cancer, etc., en parallèle de la consommation de produits ultra-transformés qui augmente. Une corrélation existe entre ces deux phénomènes et confirme donc le lien intrinsèque qui existe entre alimentation et santé. À l'opposé des produits ultra-transformés, certains aliments présentent un effet positif sur notre organisme, et notamment les aliments lactofermentés. Il se trouve qu'Aurélie s'y présente à organiser un atelier sur la lactofermentation. Bonjour Aurélie, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de l'association Une Simple Fenêtre dont tu fais partie ?
Donc on a créé avec Céline Duchesne cette association en début d'année, afin de contribuer, de voir en quoi on peut apporter des connaissances et que chacun aussi reprenne sa santé en main. Donc Céline, elle est plus sur le côté art-thérapie, chakra-danse et aussi tout ce qui est autour de la sensibilisation des perturbateurs endocriniens. Là, elle anime un escape game sur le thème. Et moi, plus autour de l'alimentation et manger vivant et sain.
Et vous animez des ateliers sur quelle zone géographique du coup ?
Là, elle est par exemple vers Langogne. Donc on se déplace, tout dépend des demandes et des opportunités.
Avant de parler du processus de lactofermentation, de la recette, est-ce que tu pourrais nous expliquer les intérêts qu'il y a à consommer ces aliments ?
C'est un mode de conservation ancestral qui permet de garder toutes les vertus des aliments. Ils restent vivants. Là où, dès qu'il y a une transformation thermique, par exemple, ça crée des modifications et on perd des nutriments, des vitamines. La vitamine C, par exemple, qui disparaît complètement dès qu'on cuit.
Et quels impacts la consommation de produits lactofermentés peut avoir sur notre microbiote ? Et si tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est le microbiote, s'il te plaît.
Donc le microbiote, c'est notre flore intestinale. L'avantage de la lactofermentation, c'est que ces bactéries qui se sont développées dans le processus de lactofermentation vont venir nourrir les bactéries de notre système digestif, qui est individuel à chacun. Il y a autant de microbiote que de personnes. On n'a pas du tout... Chacun a une flore intestinale qui est différente.
Et donc hier, tu as expliqué un petit peu les termes prébiotique et probiotique. Est-ce que tu pourrais refaire une petite explication sur la différence ?
Eh oui, donc la lactofermentation, justement, est un produit prébiotique, c'est-à-dire qu'elle va venir nourrir les bactéries de notre flore intestinale. Là où les probiotiques, ça va davantage être des souches extérieures que l'on apporte et dont on n'a pas forcément besoin. Enfin, comme chacun a une flore différente, on peut parfois en amener des nouvelles souches qui sont extérieures à nous et qu'on n'avait pas forcément à l'initial.
Et est-ce que tu peux vous expliquer du coup le processus de lactofermentation, la recette, le procédé à suivre.
En fait, ce sont les bactéries lactiques qui se trouvent à la surface de tous les végétaux qui vont venir manger les sucres des végétaux et qui vont, en se nourrissant, proliférer, se multiplier et augmenter ainsi les vertus. En fait, le sel, il est juste là pour tamponner, pour que les mauvaises bactéries ne se développent pas. Donc le taux de sel qu'il faut mettre, c'est entre 1 et 3%, mais en sachant que c'est minimum 1%. En dessous de 1%, les mauvaises bactéries peuvent prendre le dessus. Donc moi, je conseille de se référer à 1,5% de sel. Donc ça veut dire 15 grammes de sel pour 1 kg de légumes. Et c'est un processus qui est anaérobie, donc qui fonctionne sans oxygène. Donc c'est aussi l'un des points primordiaux, c'est vraiment de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'oxygène pour que ces bonnes bactéries se développent et non pas les mauvaises. Donc quand on prépare les légumes, après les avoir mélangés avec du sel, on tasse bien pour faire aussi sortir le jus des légumes, comme on dit, faire dégorger, et de tasser pour qu'il y ait le moins d'air possible. Et on remplit le bocal comme ça, on laisse juste 1 cm. Parce qu'ensuite, quand le processus se lance, on doit laisser le bocal à température ambiante entre 18 et 25 degrés pour justement que ces bactéries se développent. Et le surplus de jus va sortir du bocal. Donc ça dure à peu près 3-4 jours. Et ensuite, on laisse le bocal à température ambiante pendant 3 semaines. Et à partir de 3 semaines, c'est bon, on peut commencer à consommer. Ou si on ne consomme pas, on le met au cellier pour ralentir en fait le processus simplement.
Et du coup, on va écouter un petit extrait de l'atelier d'hier soir.
Alors là, je coupe le chou le plus fin possible, en toute fine lamelle. Voilà. Et pourquoi je suis venue ? Parce que j'ai... c'est un procédé de conservation qui me convient bien. Et j'ai envie de... J'ai essayé, je ne sais pas ce que ça a donné. Donc je suis venue suivre les conseils d'une pro.
Alors, pour ma part, je suis venue parce que j'ai tout tenté avec les légumes, la congélation, la stérilisation. Bon, la stérilisation, j'en suis pas très satisfaite parce que ça détruit quand même... le légume, au niveau du goût, des vitamines. La congélation, quand on ne le garde pas trop longtemps, je m'en sors bien. Mais avec les plats, par exemple les ratatouilles, déjà cuisinés et congelés. Mais par contre, les légumes crus congelés, ça ne marche pas. Et comme je ne connais pas le principe, je ne savais pas le faire, je suis venue pour apprendre. Et donc là, pareil, je coupe le chou très fin pour pouvoir passer à la lactofermentation.
Ah bah tu vois, je suis en train de couper du petit poireau tout fin, tout fin, tout fin. Alors, Aurélie, c'est ça, Aurélie ? Elle nous a fait goûter son poireau lactofermenté, donc voilà pourquoi je coupe du poireau. Non mais, moi ce que j'aime, en fait, j'ai déjà fait un peu, mais je voulais le faire avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Parce que c'était juste quelques expériences comme ça, mais j'adore le goût des légumes lacto-fermentés, tout simplement. Mais j'utilise tout plein d'autres méthodes. J'ai un gros jardin. Donc,
c'est une manière de conserver aussi.
Voilà. Disons que si je peux éviter d'acheter des légumes ailleurs, j'essaie de faire le maximum de choses dans mon jardin. Et de préparer le maximum de choses pour être tranquille l'hiver.
Donc on vient de l'entendre, les participantes qui étaient des femmes du coup de cet atelier ont découpé plusieurs types de légumes. Est-ce que on peut faire de la lactofermentation avec tous les types de végétaux, tout type de légumes et voire des fruits, des fleurs?
Alors quasiment oui. Alors moi je fais très peu en saumure. En saumure, c'est-à-dire qu'on mélange du sel avec de l'eau. Et on trempe les légumes dedans. Moi, je préfère le côté un peu râpé, écrasé. En plus, ça a plus de peps en bouche. En sachant que du coup, des légumes comme le chou-fleur, l'aubergine, on ne peut pas les faire du coup comme ça. Il faudrait les faire en saumure. J'ai appris qu'on pouvait faire avec les fruits. Donc là, je viens d'essayer, mais je n'ai pas encore goûté. J'ai essayé il y a un petit mois, donc j'attends que ça soit bien pris pour vérifier. J'ai essayé avec le coing et j'ai pris du sel de l'Himalaya, qui a un pouvoir salant qui est un peu moins fort en goût. Donc je vais être curieuse de voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que oui, je n'ai pas précisé tout à l'heure par rapport au sel?
C'était la question que j'allais poser.
Je me suis doutée. De prendre un sel le plus neutre possible, naturel. Surtout ne pas prendre celui avec des additifs ou des conservateurs. Dès qu'on voit le mot E, de toute façon, il faut commencer un peu à se poser des questions. Donc le E535, par exemple, qui est présent dans certains sels dont je ne vais pas citer la marque, mais dès que le sel est blanc, on peut se dire qu'il a eu une transformation et qu'il n'est pas naturel. Et cet anti-agglomérant a une incidence sur notre santé qui est minime, hein, mais voilà, il y a comme des nanoparticules dedans dès qu'on le chauffe. Ou dans un milieu acide. Et dans la lactofermentation, quand même, il y a un peu d'acidité qui se développe. Donc, on évite tous ces sels, de toute façon, que ce soit pour la lactofermentation ou autre, de revenir à des choses les plus saines possibles, sans conservateur.
Et hier, tu as aussi parlé de l'eau, du type d'eau qu'on utilisait pour la lactofermentation.
Oui. Alors là, avec le procédé que j'ai fait hier soir, on n'a pas besoin d'eau. Par contre, si les gens veulent découvrir et faire en saumure, la saumure, vaut mieux la faire à 3% en quantité de sel. Ne prenez pas l'eau du robinet, puisqu'elle est chlorée. Et elle va couper le processus de fermentation, puisque le chlore empêche la multiplication des bactéries. Sauf qu'en fait, on a besoin de certaines bactéries, il ne faut pas l'oublier. Et donc, de prendre une autre source. Pardon, je n'ai pas terminé. Voilà.
Ok. et au niveau du goût, voilà, parce que l'alimentation, faut pas l'avoir uniquement à travers l'aspect santé, ça a aussi une dimension sociale et une grosse part de plaisir. Au niveau du goût, comment tu pourrais décrire le goût des aliments lactofermentés? Peut-être un peu difficile juste avec la voix, mais...
Je dirais que ça agrémente, ça... Tout à l'heure, j'ai pris le mot pep, c'est un peu ça, je trouve. C'est légèrement acidulé. Alors, quand on le mange seul, au début, les gens, voilà, ils aiment peut-être pas forcément parce que ça peut être un peu fort en goût. Mais alors, mélangé avec une autre crudité, ça sale déjà naturellement la salade. Et puis, je trouve que ça la rehausse. En plus, ça permet, comme le poireau, par exemple, j'adore, moi, le poireau lacto-fermenté. Le poireau, le manger cru, c'est assez compliqué, quoi. C'est très dur, très ferme. Et comme tu as goûté hier soir, c'est tendre après. En fait, ces bactéries, elles prédigèrent, elles commencent à digérer le légume. Donc, elles facilitent notre digestion. Je reviens plus sur le côté santé, finalement, que le côté plaisir. Et c'est vrai que moi, je prends plaisir à me dire qu'en prenant plaisir à manger, en plus, je fais du bien à mon corps.
C'est une belle manière de manger. Et au niveau de la texture, c'est vrai que ça attendrit aussi un peu l'aliment.
Beaucoup, oui, ça l'attendrit beaucoup. C'est salé, mais pas plus que ça. Parce que finalement, 1,5%, voilà, il suffit de ne pas rajouter de sel dans la vinaigrette et voilà.
Et du coup, comment toi tu les consommes donc en salade? Est-ce que tu fais un peu de cuisson?
Non. Alors, si les gens veulent les chauffer, disons qu'ils auront bénéficié d'un mode de conservation optimum, mais ils perdent les vertus en cuisant. La vitamine C, comme je disais par exemple, elle disparaît dès qu'on chauffe. Après, il peut y avoir des entre-deux, parce que les gens me disent « Oui, moi, j'ai du mal à digérer le cru. » Ça peut être de le rajouter à des légumes, une poêlée de légumes, et de servir, de mettre la cuillère au dernier moment quand on sert dans l'assiette. Comme ça peut un peu se réchauffer, enfin, ce sera tiède. Et on aura encore un peu de vertu. Je prends souvent chaque petit pas qui permettent d'atteindre quelque chose. Il n'y a pas une perfection. Il y a comment chacun fait avec là où il en est. Mais déjà, de pouvoir déplacer un peu le curseur.
Il existe des projections diverses sur notre alimentation du futur, à base de gélules, de poudres déshydratées, donc avec de moins en moins d'aliments naturels tels que nous les trouvons dans la nature et de plus en plus de chimie. Gain de temps, apport de quantité exacte de calories et de nutriments dont notre organisme a besoin. Les avantages mis en avant sont entendables mais interrogent tout autant sur le futur de notre alimentation. Oui. Quelle est toi ta vision de notre alimentation du futur et notamment de la place des produits lactofermentés.
Qu'on revienne à une alimentation simple, la moins transformée possible. De se dire que dès qu'on a une action sur un aliment, ça a une conséquence. Le coin, par exemple, de saison, si tu le coupes, tu vas voir, il va très vite s'oxyder. Une pomme, par exemple, va s'oxyder, va changer de couleur, mais elle va mettre un peu de temps. Le coin, ça va très vite. Et pourquoi ? Parce que justement, le coin est bourré de vitamine C, qui s'oxyde à l'oxygène. Et j'ai perdu le fil du coup. Donc oui, qu'elle soit le moins transformée possible, la plus... Moi, je vois, j'adorais cuisiner, hein. C'est encore le cas. Mais plus le temps passe, plus je mange simple. Je mélange de moins en moins les ingrédients entre eux aussi. Il faut savoir qu'entre manger une salade de betterave rouge, par exemple, je râpe simplement ma betterave avec du lactofermenté, va demander moins d'efforts à mon organisme que si je mélange 3-4 légumes ensemble. J'aime bien avoir ce référentiel juste pour une trame de fond. Après, quand je suis avec des amis, je mange tout ce qu'il y a. Mais je vois que je gagne en énergie et que ça me demande... Je suis beaucoup moins fatiguée depuis que j'ai cette simplicité au niveau de mon alimentation.
Et finalement, avec les produits lactofermentés, on peut peut-être manger moins en quantité de, par exemple, de légumes, de végétaux, mais en fait, leur qualité nutritionnelle, elles sont quand même beaucoup plus préservées et ils sont beaucoup plus riches.
Exactement. Je ne sais pas aussi si tu as remarqué, quand tu entre manger une betterave crue et une betterave cuite, moi j'ai tendance à en manger une crue, j'ai bon appétit, cuite, j'en mangerai au moins le double. Donc c'est vrai qu'aussi, je sens que je suis beaucoup plus rassasiée avec du cru qu'avec du cuit. Je ne mange pas les mêmes quantités.
Et est-ce que, à mesure que tu organises des ateliers, que tu fais des ateliers de sensibilisation, tu observes un regain d'intérêt sur ces questions-là, alimentation, santé, lactofermentation, auprès du grand public ?
Les gens se posent de plus en plus de questions. Aux assises de l'alimentation qui ont lieu le mois dernier, donc j'ai aussi fait un atelier justement sur la lactofermentation. Et j'ai été agréablement surprise, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont laissé leur adresse mail pour être tenu au courant des éventuels futurs ateliers que je pouvais proposer. Alors que je suis quelqu'un d'assez timide, je n'ai pas trop de pubs. Là, je vois, il y a presque 20 personnes qui m'ont laissé leur adresse mail. Donc oui, je pense que c'est significatif d'une demande.
Et dû à une inquiétude aussi par rapport aux produits ultra transformés.
Oui. Et puis de faire eux-mêmes. Je pense qu'il y a aussi ce côté, ils savent ce qu'ils mangent.
Et c'était plutôt quel public ? Là, hier, par exemple, il y avait... Enfin, on était uniquement des femmes. Est-ce qu'il y a aussi des hommes, des enfants qui s'y intéressent ou...
Alors, la dernière fois, par exemple, sur Monde, il y avait quand même aussi quelques hommes. Il y avait, je dirais, un quart d'hommes. Okay. C'est quand même un public ça plutôt reste féminin. Oui.
C'est pas une grande surprise, mais... Est-ce que tu utilises d'autres techniques de fermentation, toi, dans ta vie quotidienne, dans les boissons
Alors oui, je fais effectivement de la kombucha, j'aime beaucoup. Et un peu le kéfir aussi, mais j'ai une préférence pour la kombucha. Pareil, comme je dis aux gens, mais allez vers ce qui vous fait envie. De revenir aussi à nos sens, de sentir. Moi, je vois quand je vais chez le primeur, je sens et je vois ce qui me fait envie. Et plus l'odeur est forte, plus en fait notre corps nous indique c'est de ça dont j'ai besoin.
Et on va faire une petite pause musicale.
La jardinière de légumes, c'est un peu décevant quand même. Quand on nous la sert, qu'elle fume. Tout le monde a de la peine. On se dit que ça ne doit pas être cool d'être du tiers-monde ou de vivre pendant la guerre. Ça rend humble une seconde. La jardinière de légumes, on en a tous déjà pris. Personne ne s'y accoutume, tant pis. C'est un peu comme voyager
vers le pays du chômage, et ce juste avec le goût, mais ça fait cher le voyage. Pourtant les carottes c'est bon, les petits pois passent quand t'as un rhume, mais la jardinière là non, c'est du cadavre de légumes. Les légumes en jardinière, on en a tous déjà pris de force, il faut bien l'admettre aussi. Je ne comprends pas pourquoi des gens prennent sur leur temps pour en cuisiner. Quelquefois ils sont certainement méchants, et puis c'est tellement plus simple, et avouons-le, ça va plus vite de faire de vrais légumes comme des frites, des pâtes ou des frites. Comme personne n'en prend, elle revient à tous les repas, et ça peut durer longtemps, en soupe ou toujours comme ça. Certains tombent en dépression, d'autres vont vomir en fraude, car ce n'est ni plus au fond que de la macédoine chaude. La jardinière de légumes, c'est un peu comme les oignons, ça fait pleurer sans aucune raison. Les légumes en jardinière, ne m'en sers plus, c'est un crime. C'est ton choix à toi de faire ce régime.
Et c'est vraiment dégueulasse.
Chaud patate
sur Radio Bartas
107 FM. Vous êtes toujours dans l'émission Chaud Patate, l'émission du pâte. Dernière question pour toi Aurélie, quel est ton aliment de saison préféré et la manière dont tu aimes le préparer?
En ce moment, la betterave. Et je vois avant, je la mangeais cuite il y a quelques années. Là, je ne peux plus. J'adore la manger crue. Et avec, j'agrémente avec un peu de lacto-fermenté. De savoir aussi que vraiment d'avoir en conscience que rien que le fait de chauffer les aliments a vraiment une incidence et modifie les choses. Une betterave cuite a un indice glycémique qui monte très vite, là où c'est pas le cas avec du cru. Donc ouais, d'avoir en conscience que toute transformation
a une incidence sur la qualité de l'aliment.
Voilà.
Super. Ben, merci beaucoup Aurélie pour toutes ces explications sur la lactofermentation. J'espère que ça aura donné envie aux auditeurs et auditrices de Chaud Patate de s'y mettre. Et on passe maintenant à la chronique jardin de Jean-Jacques.
J'espère être là. Je te transmettrai ma façon de cultiver.
Je dis bah super, voilà, je vais apprendre à faire un potager correctement, avec des bonnes techniques, tout ça.
C'est l'heure de la chronique jardin présentée par Jean-Jacques.
C'est quoi notre quartier ? C'est le potager !
Salut Jean-Jacques, on se retrouve dans ce troisième épisode de Chaud Patate pour voir ce qu'il se passe durant l'hiver au jardin. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du compost. D'après l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, nos déchets organiques représentent 40 à 60% de notre poubelle d'ordures ménagères. C'est donc une grosse part de nos déchets qui pourraient être valorisés via la pratique du compostage. D'autant plus qu'à partir du 1er janvier 2024, il devient obligatoire pour les collectivités, administrations, professionnels et autres ménages de trier ces déchets organiques. D'où l'intérêt de parler du compost lors de cette chronique. Jean-Jacques, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment fonctionne le compost ?
Alors le compost, il faut savoir que c'est l'or du jardinier déjà premièrement. Le compost, c'est ce qui fait que vous aurez un bon jardin, un beau jardin et un jardin productif. Comment marche le compost ? C'est-à-dire que les plantes, au lieu de mettre de l'engrais chimique, eh bien on va mettre du compost dans sa terre. Alors le compost, il ne va pas nourrir les plantes. Il va nourrir tous les micro-organismes, toute la vie de la terre. On pense beaucoup aux lombrics, c'est vrai que ce sont de gros travailleurs du sol, mais il n'y a pas que les lombrics, il y a tout ce qu'on ne voit pas, des micro-organismes, des champignons. Et tous ces organismes-là vont grignoter le compost, et vont le transformer en matière assimilable pour les plantes. C'est là où le compost, c'est l'utilité du compost au jardin. Donc en principe, un compost, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose qui va réellement améliorer la terre. Une terre pauvre, eh bien, il va suffire au fil des années, au fil des mois, mais des années, de l'enrichir en compost pour que cette terre devienne ou redevienne fertile et puisse donner un beau jardin.
Ok, donc si j'ai bien compris, nous, dans notre compost, on va mettre des déchets organiques, donc par exemple des épluchures de carottes, disons, et les micro-organismes qui sont présents, disons, dans la nature, dans la terre, vont venir les décomposer, et ensuite ça va être assimilable, du coup, pour les plantes.
Voilà, c'est ça. C'est que donc, ces micro-organismes, ça commence par des micro-organismes... plus petit que les vers, hein. C'est la décomposition de toute matière qu'on pourrait laisser sur le sol, hein, à l'air libre. Et donc, c'est important de savoir que l'oxygène va aider à tout ça, c'est comme le feu, hein, tout simplement. Les petits organismes vont commencer à faire pourrir la matière. Ensuite, les moyens organismes, si je peux dire, les insectes, vont aller grignoter tout ce qui a été pré-mâché par les précédents, et dans leur digestion vont rendre tout fragmenté, si je peux dire ça comme ça, pour que les plantes puissent assimiler la matière, c'est-à-dire l'azote, le phosphore, les oligoéléments, les minéraux, les matériaux, les métaux, je voulais dire aussi, tout ce qui fait qu'une plante pousse.
Et quelles sont les différentes manières de composter ?
Alors la plus vieille des manières est peut-être celle qui va le mieux marcher. Alors c'est celle qui est pour les gens qui ont un jardin un petit peu grand, hein, comme moi. C'est faire un tas, tout simplement. Alors on appelle une compostière. Compostière, c'est souvent contre mur. Si possible, pas trop au soleil, parce que le soleil est un petit peu l'ennemi du compost, hein, parce que le compost, il aime bien être ombragé. S'il sèche trop vite, ça va faire tout de suite une matière sèche que les animaux auront du mal à manger, hein, si on peut dire ça comme ça. Le compost va s'arrêter de se transformer et ce n'est pas très grave, mais au lieu de se fabriquer en 9 ou 12 mois, il va mettre plus de temps que ça. Donc la compostière, on la met plutôt à l'ombre, plutôt sous un arbre ou contre un mur. On met des planches autour pour que le compost reste bien compact. Parce qu'un tas de compost, il faut qu'il, même c'est pareil pour dans un composteur, il faut qu'il soit le plus petit possible, mais le plus haut possible. C'est-à-dire, si on étale sur plusieurs mètres carrés un tas, ça aura du mal, ça va sécher plus que composter. On en revient au même. Donc, il faut que le tas soit assez petit. Moi, ma compostière, elle fait 1 mètre sur 2. 1 mètre sur 2, ça peut paraître grand, mais j'y mets énormément de choses dedans. J'y mets les déchets de 300 mètres carrés de jardinage. Donc, ça fait, voilà, première méthode, la plus classique. Suffit. Alors, l'idéal pour une compostière, c'est de l'enterrer un petit peu. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand on veut faire une compostière, on fait un trou de 30 cm de profondeur dans la terre et on enlève toute la terre. Donc, sur, admettons, 1 mètre sur 2 ou 1 mètre sur 1, de manière à ce que les déchets qu'on va mettre dans la compostière se décomposent plus facilement parce que l'humidité sera plus présente, l'été surtout. Voilà. Deuxième manière de faire du compost, ça c'est la plus... courante, ou là on dira la plus moderne, c'est le composteur. Le composteur, alors là, tout le monde connaît, il peut être en plastique, il peut être en bois, moi je préconise vraiment le bois. Donc, en général, c'est cubique, en général, ça fait 200 ou 400 litres, donc il suffit d'y mettre des couches de végétaux, et ça va se transformer en compost. Alors, ce qu'on n'a pas dit sur le compost, c'est comment le... quoi mettre dedans.
Oui, on va le dire
juste après. Ouais. Voilà, vous ne voulez pas oublier des choses importantes. Voilà, donc il y a le composteur. Donc le composteur, il suffit d'en acheter. Il suffit d'aller le Sictom en vent à pas cher, à 30 euros, le Sictom de Florac. Il suffit de suivre une petite formation de 3/4 d'heure et vous repartez avec votre composteur. Donc le composteur, il peut s'installer, je dirais, c'est plus pour des petits jardins ou des jardins qui sont contre des maisons. Voilà. Il y a d'autres formes de compost. On peut faire aussi des lasagnes. Des lasagnes, c'est un tas sur lequel on fait un compost qu'on va directement pouvoir utiliser au bout de quelques mois pour planter des légumes. Mais là, on va parler permaculture. Donc je pense qu'on fera une émission sur la permaculture et sur les lasagnes.
Ça, c'est déjà une planche de culture, finalement, la lasagne.
Voilà, c'est une planche de culture, mais c'est un tas de compost aussi. on parle aussi du lombricompostage. L'ombricomposteur, c'est un petit peu comme un composteur, mais sauf qu'il y a plusieurs étages. Plusieurs étages qui correspondent au degré de maturité de votre compost. Avec les composts, les lombrics qui grignotent toute cette matière organique. Et au rez-de-chaussée, si je peux dire, on peut même récupérer une sorte de purin qu'on peut utiliser ensuite pour arroser son jardin, dilué bien sûr. Donc ça, c'est une troisième manière de faire du compost. Voilà.
Ouais, et après, nous, quand on en avait discuté, on avait aussi parlé des toilettes sèches qui étaient possibles d'utiliser au jardin. Ça, tu m'avais dit que tu n'utilisais pas, mais c'est vrai que c'est une manière aussi de ne pas utiliser de l'eau, de l'eau potable en plus pour les toilettes. Et il y a quelques règles à respecter. Du coup, il faut attendre 2 ans, il me semble, pour utiliser la matière, histoire que tout ce qu'on peut ingérer de substances antibiotiques, etc., est potentiellement disparu.
Moi, ce que je dirais aussi sur les toilettes sèches, c'est qu'effectivement, ça va facilement et logiquement se retrouver dans un compost, même si moi, je ne le fais pas. Je n'ai pas de toilettes sèches, mais bon, je ne suis pas un exemple. J'évite, moi, dans mon compost, de mettre des déjections d'animaux autres que herbivores. Voilà. Par exemple, si j'avais un cochon, j'éviterais de mettre le lisier de mon cochon sur mon compost. Ça n'a pas les mêmes règles de, comment dirais-je, effectivement, les mêmes contraintes que des déchets, des vaches, des chèvres, des moutons. Moi, personnellement, je fais rire beaucoup mon entourage. Je fais du compost à base de fumier de cochon d'Inde. Alors là, c'est. Mais quand on a beaucoup de cochons d'Inde, on peut très bien mettre son compost, les crottes de cochons d'Inde, pareil pour les poules, dans le compost. C'est ce que je fais. Et ça améliore énormément votre compost. Ce que je conseillerais aussi, les fientes de poules, fientes d'oiseaux en général, c'est un fumier très très riche, très acide aussi. Mais il suffit de le mettre en petite quantité. Et ça se mélange très très bien. Il y a des engrais d'ailleurs naturels qui sont à base de guano qui se ramassent en Bretagne et ailleurs au bord de la mer. C'est un très bon engrais, mais il ne faut pas en mettre trop. La seule chose que je dirais sur les toilettes sèches, pour finir, c'est que si je devais faire un compost avec des toilettes sèches, je privilégierais l'épandage du compost sur des cultures qui ne sont pas mon jardin, c'est-à-dire au pied des arbres, au pied des haies, tout ce qui entoure la maison pour améliorer les endroits de plantes, finalement, qu'on ne mange pas. Ça simplifierait un petit peu les craintes qu'on peut avoir de mettre les toilettes sèches dans son compost.
Oui, ça peut être un frein psychologique aussi, effectivement, de manger des légumes qui ont poussé.
Toutes les plantes du jardin et de la maison, les arbres, les arbustes, même décoratifs, ont besoin d'amendements. Alors on ne le fait pas et on voit souvent que les haies autour des maisons ne sont pas belles chez les gens quand on marche en ville dans les rues. Et pourquoi ? Parce qu'on n'y met rien au pied. Et il n'y a pas assez d'amélioration de terre au fil des années. Les haies parfois meurent par manque de nourriture.
Et du coup, comment on l'utilise le compost à partir là, tu donnais une durée là de 6 à 9 mois. Est-ce que tu peux revenir sur ce délai d'utilisation du compost et comment toi tu l'utilises?
Alors moi je l'utilise, alors déjà la durée c'est 6 à 9 mois, moi je préfère 9 à 12. 9 à 12, c'est-à-dire que tous les mois d'octobre, novembre, tous les ans, je vide tous mes composteurs et compostières. Donc c'est une opération lourde mais intéressante tous les ans. C'est vraiment l'aboutissement d'un an de stockage de matière. Et pour moi, c'est un travail très, très intéressant. Alors, selon le degré de maturation du compost, tout est bon dans le compost. Mais il y a toujours une partie, la partie du haut, qui n'est pas tout à fait finie de composter. Et la partie du milieu qui est parfaite. Et la partie du fond, finalement, qui a 12 mois, qui ressemble plus à du marc de café. Donc, selon le degré de la taille du grain du compost, je vais l'utiliser de diverses manières. Par exemple, la partie haute, Par exemple, je vais m'en servir pour pailler certaines plantes, puisque ce n'est pas assez décomposé. Pailler, par exemple, des artichauts. Comme ça, ça va avoir double intérêt. Dans un premier temps, on va pailler nos artichauts. Ça va leur permettre de mieux passer l'hiver parce que le pied sera protégé du froid. Et pendant l'hiver, le paillage va lui aussi se transformer en matière organique plus décomposée, en compost, voilà, sur place. Et donc, ça va se transformer en engrais. Ensuite, la partie du milieu, je vais la mettre dans mon jardin. Je vais faire une couche sur ma terre à Toussaint qui va servir elle aussi de paillage, qu'on peut aussi enfouir par un griffage à la main. C'est plus respectueux des couches de la terre. Et souvent, je garde quelques seaux du compost, le fond du compost, parce que c'est le plus régulier, c'est le plus nutritif, dirais-je, et puis c'est le plus que je m'en sers pour faire des plantations en pot. Alors, jamais pur, parce que le compost, c'est très bon, mais il faut le mélanger à la terre du jardin. En général, on fait moitié-moitié. Moitié terre, moitié compost, pour refaire des cultures en pot.
Et là, du coup, tu le tamises ou pas forcément ?
Non, je le tamisais il y a longtemps. Je ne vois pas l'utilité aujourd'hui de le tamiser. Sauf peut-être pour les pots. Pour les pots, c'est sûr qu'on aime bien, quand on fait un pot de 2, 3, 4 litres de contenance, si on se retrouve avec des gros bouts de 5 cm de circonférence, ça pose des soucis. Ceci dit, les plantes s'accommodent très bien d'avoir un substrat un peu irrégulier. Je dirais même qu'au niveau du drainage, c'est plutôt mieux que d'avoir un compost trop fin. Voilà.
Et tu parlais de l'utilisation de la partie supérieure du compost, et c'est vrai que moi j'ai déjà rencontré des jardiniers qui directement mettaient leurs déchets organiques sur leurs planches de culture et qui ne passaient pas forcément par le compost. C'est une technique
aussi. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est tellement de l'or pour moi le compost que j'en fais au maximum. Donc tout passe au compost. Après, c'est vrai que des fois, quand on désherbe, surtout l'été, quand on est débordé par la force des choses, eh bien, quand j'arrache les mauvaises herbes, je les laisse dans l'allée ou je les laisse au pied des plantes et ça se transformera en compost. Mais ça ne se transforme pas de la même manière. Parce que souvent, quand on laisse juste une épluchure d'une feuille de salade, imaginez une feuille de salade l'été au soleil, en un jour, elle va se transformer en poussière. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui me gêne, je dirais, c'est pas que ça me gêne. Toute matière est bénéfique pour la terre. Tout servira à quelque chose. Tout est intéressant. Mais je trouve que en le mettant dans mon composteur, je donne mieux à manger à mes vers de terre. Je le vois comme ça. Je mettrai dans ma terre une matière très très intéressante. Alors qu'une feuille de salade comme ça, toute seule sur la terre, qui sèche au soleil en un jour, je suis pas sûr que ça ait le même résultat.
Et pour l'entretien du compost, du coup, du brassage, du retournement, c'est ce que tu fais toi ou pas forcément ? Tu le laisses se décomposer
Alors le compost, déjà, il faut savoir qu'il faut faire des couches. Est-ce qu'on parle tout de suite de la composition
de ce qu'on y met ? Ouais,
c'est
adapté.
Voilà. Mmh. Voilà. Alors pour réussir en compost, le maître clé, c'est mélanger le matière carbonée aux matières azotées. Alors pour résumer, pour faire simple, les matières azotées, c'est par excellence l'herbe verte qu'on va tondre à la tondeuse. Voilà, les feuilles de salade toutes vertes et les feuilles de navet, ça ce sont des matières azotées. Donc les matières azotées, on essaie de mettre 30% dans un compost et 70% de matière carbonée. Le carboné, c'est les matières sèches. Par exemple, la paille sèche, le foin sec, le bois ramé alpha augmenté qu'on peut récupérer au Sictom ou à la mairie, c'est de la matière sèche. Donc il faut savoir que si vous ne mettez dans votre compost que des matières azotées, que de la tonte de pelouse, vous allez très 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 vite, en un jour ou deux, avoir une fermentation qui va s'opérer. Des fois, on veut que ça fermente, mais en général, on ne veut pas. La matière va se transformer en quelque chose de nauséabond, cuit parce que fermenté, deux jours plus tard, la matière aura cuit. Elle ne sentira pas bon, il y aura des moucherons qui vont se développer dans tous les sens, et ça va faire une sorte de mélasse vraiment affreuse. Donc ça, on ne le veut pas. Donc il faut arriver à mettre on va dire moitié-moitié ou un tiers de tiers, des matières sèches et des matières fraîches. Les épluchures de pommes de terre, les épluchures de la cuisine, c'est du azoté. C'est azoté parce que ça contient de l'eau. Donc si vous mettez dans votre composteur que des matières comme des épluchures de pommes de terre, ça va avoir tendance à pourrir. On ne le veut pas non plus. Donc il faut arriver, le plus dur pour le compost, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Et vous le trouverez tous, chacun chez vous, un peu d'une manière différente selon vos habitudes. C'est sûr que si vous avez comme moi 1000 m² de tente de pelouse, il va falloir faire quelque chose pour ne pas créer cette mélasse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il va falloir arriver, par exemple, à faire sécher vos tentes de pelouse un petit peu avant de les mettre au compost, ne serait-ce que 2 ou 3 jours. Il ne faut pas trop les entasser parce que vous avez déjà remarqué quand vous tendez à la tondeuse, si vous laissez des tas d'herbes dans un coin, ils vont très 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 vite fermenter, chauffer, sentir, couler. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc il faut arriver dans le compost à mettre un coup un peu de matière sèche, un peu de matière humide. Et pareil dans le composteur, encore plus dans le composteur. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de matière sèche, parce qu'en général on manquera toujours de matière sèche. Ce qui est conseillé au Sictom, on vous montrera, à garder dans un sac en papier ou un sac en toile de jute de la matière sèche, par exemple du bois ramal fragmenté. Comme ça, à chaque fois que vous mettez une couche d'épluchure de pommes de terre dans votre composteur, vous mettez en même temps 2 pelletées de BRF dessus, et comme ça vous respecterez tout le temps la proportion. Et vous verrez que. Ensuite, vous faites des couches. Un compost, ça ne doit jamais sentir. Vous pouvez le mettre à côté de la maison et à côté des voisins. Le jour où le compost sent, c'est qu'il est en train de louper. Vous n'avez pas tout à fait respecté la consigne. C'est-à-dire que vous avez sans doute trop mis de matière humide. Si vous mettez trop de matière sèche, rien ne va se passer. Vous allez faire du foin. Et si vous mettez trop de matière humide, vous allez avoir les inconvénients du compost qui sent. Alors un jour, ça se transformera en compost, mais dans 6 mois. Donc c'est un peu trop long.
Oui, l'odeur, enfin le compost a une odeur, mais c'est plutôt une odeur de sous-bois quand il est à l'équilibre finalement.
Le compost qui est fini, vous devez pouvoir le prendre avec vos mains sans vous tâcher. C'est une sorte de mare de café. Le dernier compost, le plus mûr au bout de 2 ans, c'est une mare de café. Vous ne vous tâchez pas en le prenant. C'est relativement sec au toucher. C'est granuleux, régulier. Vous n'y voyez plus aucun déchet, aucune tige. Bon, après, c'est pas grave s'il reste des tiges et un peu de matière organique. Hein. Mais ceci dit, voilà, la finalité, c'est ça. C'est le marc de café que vous pouvez prendre à la main, sans vous salir. On a parlé du brassage tout à l'heure, des choses comme ça. C'est vrai que l'été, en particulier l'été, et surtout si vous avez le doute d'avoir mis des couches successives de sec, d'humide, de sec et d'humide, avec une fourche, vous aérez et vous remuez votre compost. Ça va permettre déjà de faire rentrer de l'oxygène sous terre, dans le compost, dans le cœur du compost, parce que le compost, il a besoin d'oxygène pour se faire. Hein. C'est exactement comme le feu. S'il n'y a pas d'oxygène, et les bactéries aérobies, et même les vers ont besoin d'oxygène pour vivre. C'est comme, exactement comme nous. Donc il faut oxygéner le tas de compost. Plus vous l'oxygénerez, plus vous le brasserez. Alors, il ne faut pas à l'excès. Hein. Je dirais que si vous le brassez 5 ou 6 fois dans l'année, c'est bien. Déjà, voilà, ça le mélangera. Ça aidera les matières qui sont sèches s'agglutiner avec les matières un peu trop humides et à faciliter le travail de tous ces micro-organismes. Pareil, en principe, un compost, s'il est à l'ombre, logiquement, vous n'avez pas à l'arroser. Ceci dit, si vous avez mis un peu trop de matière sèche, si l'été dure 5 mois comme les étés durent actuellement sud Lozère depuis une dizaine d'années et qu'il ne pleut jamais, c'est pas interdit d'arroser un petit peu le compost l'été. Moi, 3 fois dans l'été, 1 fois par mois, juin, juillet, août, juillet, août, septembre, je mets une 50aine de litres d'eau dans mon compost. Parce que si on arrive à une matière sèche, le compost s'arrête de se fabriquer en attendant l'automne, hein. Et puis quand vous allez vouloir vider votre compost, eh bien, il ne sera pas fini. C'est le seul inconvénient, mais c'est vrai que l'arroser l'été, 2-3 fois, c'est pas une mauvaise idée. S'il y a un capot sur le composteur, ou si c'est un capot parce que c'est un composteur en plastique, surtout quand il fait un orage, ouvrez-le. Comme ça, il s'arrosera tout seul.
Et quels sont les signes apparents d'un déséquilibre du compost outre l'odeur, notamment, je pense aux moucherons.
Le fait, en principe, un compost ne doit pas couler. Contrairement au lombricompost où on récupère du jus. Moi, personnellement, je n'utilise pas de jus. Voilà. Donc, il y a l'odeur, bien évidemment. Il y a le fait que ça chauffe. Donc, il y a une odeur prononcée de fermentation. Donc, une petite odeur de fermentation, c'est pas étonnant parfois, mais il faut pas que ça devienne insupportable, que ça vous pique les yeux bientôt, qu'il y ait une odeur comme quand on rentre dans une cave où le vigneron fabrique le vin. Cela, c'est que vraiment, il y a une grosse fermentation, c'est pas forcément ce qu'on veut. Après, les moucherons. Eh bien, les moucherons, les mamans moucherons vont pondre sur le haut du compost. Donc, si vous de temps en temps, vous mettez un petit coup de fourche, et si vous mettez un peu de matière sèche dessus, vous allez compliquer la tâche de la moucheronne. Et donc, elle n'ira pas pondre sur le compost. Et s'il n'y a pas d'œufs de moucheron sur le compost, eh bien, il n'y aura pas cette nuée de moucherons qui volent sur le compost. Il peut y arriver qu'il y ait quelques moucherons, mais il ne faut pas qu'à chaque fois que vous ouvrez le capot du composteur, vous soyez complètement agressé par une horde de moucherons énervés. Voilà, ça c'est... Voilà.
Et ça va nous permettre aussi de partir sur ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas dans le compost. Mais j'avais aussi entendu que sur certains sites de compostage, il y avait des problèmes de rats, de rongeurs. Et ça, c'est aussi qu'ils sont plus attirés par la viande, les produits laitiers, les restes d'aliments. Donc, soit on fait le choix de les inclure.
Alors, moi, personnellement, je mets presque tout au compost, sauf les produits carnés. Parce que les produits carnés attireront toujours les renards, pour ne parler que des plus gros, même les chiens errants, si on va par là. Hein. Même un os, un moindre os avec 3 grammes de viande dessus, attirera les chiens qui vont aller dans votre compost et ils vont tout gratter. C'est pas ce qu'on veut. Sinon, c'est le renard. Sinon, c'est le blaireau. Bon, le blaireau, moi, il vient pas mal parce qu'il aime les cétoines et il aime les hannetons. Mais ça, je ne peux pas enlever les cétoines du compost. Voilà. Et c'est vrai, les produits carnés, alors déjà les os se décomposent très lentement. Un os mettra peut-être 5 ou 10 ans à se décomposer. Et nous, comme le compost, on va l'enlever tous les ans, je trouve que je ne vois pas la place des os dans le compost. Par contre, donc pas de produits carnés et pas de restes alimentaires, style les croûtes de fromage, les restes de nouilles, les choses comme ça. Alors même si c'est... ça va, ce sont des matières organiques qui pourraient s'ajouter au compost. Ça va attirer trop de nuisibles. Ça va attirer les rats, ça va attirer toutes les petites bêtes qui ne sont pas forcément voulues au jardin. Voilà. Moi, personnellement, par contre, on me parle des écorces d'agrumes. Les écorces d'agrumes, on peut les mettre. Le défaut, c'est qu'elles mettent longtemps à se décomposer. Donc, parfois, on les retrouve dans le compost au bout d'un an. Mais ça, c'est pas très grave.
Moi, ce que je donne comme consigne sur mon compost, c'est les agrumes, mais non traités. Du voilà. Coup, qui n'ont pas été traités et qui peuvent se décomposer, même si ça prend du temps.
C'est l'autre problème des agrumes, c'est le traitement. Et il faut savoir que dans l'industrie de l'agrume, aucun agrume n'est pas traité. Les agrumes qui ne sont pas traités, ne sont pas traités après récolte. Je connais... pas un producteur d'agrumes qui fasse du citron bio qui n'a jamais été traité de sa vie. Les agrumes, ce sont des arbres qui ont des maladies comme les cochenilles, des mineuses, et donc qui souvent, à part d'avoir un agrume dans son jardin, et donc de faire de l'agrume bio, souvent les agrumes sont traités. C'est pour ça qu'on ne met pas les écorces dans le compost. Ceci dit, les pommes qu'on peut acheter dans le commerce sont traitées aussi. Alors voilà, mais bon, c'est un autre débat là.
Du coup, qu'est-ce qu'on met dans le compost?
Tout ce qui est épluchure de légumes et de fruits, quoi que vous épluchiez, toutes les matières, vous les mettez. Que ce soit après le marc de café, vous le mettez. les coquilles d'œufs, vous les mettez. Donc moi, j'y mettrai pas la viande, les os. Et j'ai une troisième chose. Alors, les coquilles d'huîtres, les coquilles de moules, les choses comme ça, c'est pas interdit de les y mettre. Ceci dit, c'est gros. Moi, je serais plus d'avis de les concasser. Parce que c'est intéressant. C'est plein de minéraux, de les concasser. Et de les mettre comme ça, sans passer par le compost. Voilà. On peut mettre de la cendre dans le compost. Moi, personnellement, la cendre, je la mets sur la terre. Je l'étends pendant l'hiver sur ma terre sans qu'elle passe par le compost. Je ne vois pas l'utilité de la faire passer par le stade compost. Voilà. Donc dans le compost, on met presque tout, sauf la viande et les os.
Ok. Et on peut aussi peut-être dire que on va découper l'élément qu'on met dans le compost, plus il se dégradera vite. Oui. Et un exemple avec les coquilles. Souvent, quand on les met entières, on les retrouve pendant longtemps. Oui. Si on les concasse.
Oui, c'est vrai que plus c'est petit, même une grosse fan de navets, ça fait 50 cm de long, c'est clair que quand on n'a pas le temps et quand on a un grand jardin, on le met sur le tas de compost, c'est immense et tout est grand. Et ça compostera très bien. Ceci dit, quand on prend le temps, quand on a le temps de, même au couteau, le couper en quatre, eh bien, on gagnera du temps, les vers auront plus de facilité à aller commencer à manger les plantes qui auront été coupées. Et les coquilles d'œufs aussi, c'est sûr, c'est sûr.
Et du coup, tout à l'heure, tu as un peu expliqué comment tu l'as installé chez toi, que ce soit, peut-être tu peux rappeler quel emplacement on choisit, quelles conditions.
Moi, j'ai un grand jardin, donc j'ai mis des composts partout. C'est-à-dire que j'en ai mis un à gauche, un à droite et un au milieu. Ça me permet, parce que l'homme est fainéant de nature, de, quand je tombe à pelouse d'un côté, bien, j'ai toujours un composteur à moins de 10 ou 15 mètres. Ça permet aussi de faciliter le travail. J'en ai un presque au milieu du jardin, comme ça, mais quand je désherbe ou quand je. Déjà, première chose. Deuxième chose, il faut essayer de le mettre pas trop au soleil. Parce que si vous le mettrez au soleil, le compost va avoir plus tendance à sécher. Alors, on a aussi une autre possibilité, c'est l'été, sur une compostière, d'y semer des graines de citrouille, par exemple, qui vont adorer pousser sur le compost. Donc, vous aurez des citrouilles sans rien faire, sans même les arroser. Et la citrouille protégera des ardeurs du soleil le compost. Les anciens faisaient ça sans le savoir, c'est-à-dire en laissant pousser sur votre compost les citrouilles qui de toute façon poussent toutes seules, parce que quand vous mettez vos graines de citrouille, quand vous triez vos citrouilles, vous les mettez sur le tas de compost, et donc l'année d'après, tout simplement, les citrouilles poussent toutes seules sur le compost. Donc là, c'est intéressant d'ombrer le compost l'été. Alors moi, je le fais quand j'ai trop de paille, ou par exemple, quand j'ai trop d'herbe verte, je la laisse pousser un petit peu. Comme ça, ça fait plaisir aux papillons, aux abeilles, à toute la faune. Je fais des jachères un peu sauvages. Et ensuite, je fauche à l'ancienne mes prairies. Et comme ça, je les laisse sécher quelques jours. J'ai moins de matière verte. Et je me sers de cette matière sèche, ou pré-séchée, si je peux dire, pour ombrager mes tas de compost. Comme ça, je dépose au pied des plantes, c'est une chose, mais surtout sur mon compost. Comme ça, ça l'ombre et ça se transformera en compost pareil. Et c'est un peu entre le compost et le paillage.
Ben, merci, je crois qu'on a tous les éléments pour mettre en place un compost chez soi et bien l'entretenir. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses à ajouter.
Non, j'essaie de réfléchir, mais sachez que le compost, on a parlé de la vie de la terre à la première émission, et là, c'était vraiment le pendant, c'est un sujet vraiment auquel je tiens, parce qu'il ne faut pas oublier que si votre jardin pousse, c'est parce que vous avez donné à manger à la terre, et pour donner à manger à la terre, il faut donner du compost, et ensuite la terre va nourrir vos légumes. Il ne faut pas donner de l'engrais à vos légumes sans passer par la terre. Si vous faites ça, vous oubliez quelque chose, vous oubliez la terre. Et en mettant du compost dans la terre, c'est vraiment toute la vie que vous recréez. Je voulais parler de la forêt. Le compost, on n'a rien inventé. Le compost, c'est de l'humus, ni plus ni moins, des forêts. Quand on se promène en forêt pour aller ramasser les champignons, Depuis des millions d'années, les feuilles des arbres tombent tous les automnes et se transforment en humus. Et cet équilibre-là, parce que la notion d'équilibre en jardinage, elle est très importante, on l'oublie parfois, mais il y a toujours une question d'équilibre. Quand une plante pousse et est équilibrée, elle va bien pousser, elle ne sera pas malade. Et donc dans les forêts, depuis des millions d'années, pour ne pas dire des milliards d'années, il y a un équilibre qui s'est fait avec l'humus qui enrichit le sol et qui permet aux arbres de pousser pendant des siècles. Ça se fait d'année en année. Et bien, il faut essayer de retrouver un peu cet équilibre-là et cette façon de faire-là avec le compost. Voilà. Sauf que là, l'homme intervient et intensifie un petit peu la chose, mais ça vient de ce constat-là. Voilà. Il faut toujours se rappeler du naturel.
Merci Jean-Jacques.
Merci.
À table !
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
Un mardi sur deux à 11h.
Un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Bartas.
107 FM. À table !